Bonjour et bienvenue à Pack the Pod, donc votre rugby clubhouse pendant ce moment de Covid. Alors moi c'est TK, Terry Coffin, je suis l'américain de notre petit groupe d'amis qui sont réunis par la rugby. Je ne suis pas tout seul, heureusement je suis là avec un grand dreadeux qui s'appelle Charlie Bayer.
Coucou, ouais, il faut dans chaque club de rugby un dreadeux paraît-il, la légende le raconte, bah pour le coup c'est moi. Charles Bayer, deuxième ligne au Massif Central. À Paris.
Exactement, on a un autre deuxième ligne qui n'est pas dreadeux, mais quand même a joué deuxième ligne pendant pas mal d'années, au PUC et Racing 92, c'est Théodore de Saint-Rémy.
Oui, c'est ça, j'ai roulé ma bosse en Ile-de-France et un peu ailleurs aussi, avec beaucoup de bonheur, et on n'a pas joué ensemble, mais on a tellement parlé de rugby que ça vaut presque.
Ouais, j'ai beaucoup appris en regardant avec toi.
T'as roulé ta bosse au Val.
Tout à fait.
Et pour amener la touche féminine dans notre pack, alors il y a Alban Borel des Pink Rockets.
Yes, la touche féminine est là. J'essaye en tout cas de féminiser un petit peu ces discussions, mais vous le faites à merveille. Donc voilà, heureuse de vous rejoindre aujourd'hui.
Bienvenue.
Tu féminises et tu trois-carises aussi.
Et je trois-carise, oui, effectivement.
Oui, donc on est là, on s'amuse, on parle de rugby, ça c'est le plus important. Quand même, on est dans une période de Covid. Ça va les gars, Théo, qu'est-ce que tu fais pendant ce moment?
Je subis comme tout le monde, je navigue à vue sur mon avenir de la vie quotidienne, et puis j'ai la chance de vivre à la campagne, donc j'en profite. Et avec la famille, les enfants pendant les vacances ont dormi pendant 2 semaines sous la tente dans le jardin, donc bon, c'est voilà, bon, c'est relativement inattendu. On essaye de positiver. J'entends que au milieu de toutes ces angoisses et de tout ce stress, il y a aussi des très bonnes choses à retirer de cette phase tout à fait inattendue et inhabituelle. Donc on essaye de regarder la vie du bon côté, voilà.
Et Alban, donc la dernière fois qu'on a parlé, tu disais que tu étais plein dans ton nouveau travail. Est-ce que c'est toujours le même ?
Je ne me suis pas fait virer, donc c'est bien. Le Covid n'a pas eu raison de moi. Non, je plaisante, mais oui, j'ai toujours un peu de boulot. Et puis j'occupe mon temps, enfin le temps restant à faire du sport, lire et à faire du tiramisu. J'essaye en tout cas de cuisiner un peu plus.
Tiramisu, c'est pas une mauvaise idée. Est-ce qu'on peut le faire au barbecue? Parce que moi, je me suis limité à barbecue.
Allez. Écoute, ça pourrait être un essai de nos Américains. Et puis, je pense que...
Allez, Charlie, je sais que t'es pas mal occupé, en fait, parce que peut-être, je suis pas sûr si t'as envie de parler, mais t'es en deux associations où tu donnes ton temps.
Ouais, bah écoute, je me suis surpris je pensais être un chômeur émérite et avoir une connaissance du rien foutre absolu, mais en fait, je me surprends à m'occuper pas mal pendant cette période. Comme les autres, je cuisine beaucoup. Je compte faire un petit album à la fin de ce confinement sur toutes mes petites recettes. Non, je me confine beaucoup. Je fais du sport à la maison aussi. C'est assez incroyable parce que j'ai jamais fait autant de sport, mais j'ai jamais autant clopé de ma vie. Donc, je suis dans une dualité complètement hors du commun. Et ouais, j'ai aussi profité de mon temps libre en ce moment pour rejoindre deux associations qui se débrouilleraient très bien sans moi. Mais bon, voilà, je les ai rejoints. Il y en a une que vous connaissez sûrement beaucoup parce qu'elle est très médiatisée, elle est très importante, ça s'appelle Protège ton soignant, qui est une association qui apporte du plus au personnel médical, soit des plus de commodités, à savoir un peu de bonheur, un peu de bouffe, de bonne bouffe, de bons partenaires, à savoir un petit peu de petits trucs sympas pour la vie du quotidien, pour améliorer la vie au quotidien, et à côté, qui récolte des dons pour fournir du matériel médical à plusieurs infrastructures hospitalières qui en manquent parfois, malheureusement. C'est un débat politique dans lequel on ne rentrera pas. Et à côté de ça, j'ai rejoint aussi l'un et l'autre, qui est une association qui est à Porte de la Villette à Paris et qui aide un peu ceux qu'on voit moins, ceux qui, dans ces périodes un peu compliquées, qui vont être compliquées financièrement de plus en plus pour beaucoup. C'est une association qui distribue des repas, qui diversifie un peu ses façons de distribuer les repas-là dans cette période un peu compliquée, qui se rend dans des camps, qui se rend dans des camps de réfugiés, dans des camps de Roms, pour distribuer un peu des repas à ceux qui n'ont pas accès aux infrastructures, et qui, à la Villette, distribue des repas où les gens peuvent s'asseoir, partager un instant, casser la croûte, voilà. C'est une très belle association, et je vous invite à vous rendre sur leur site, sur Facebook, sur Instagram, à les rejoindre. Ils font des appels aux dons, ils en ont très besoin en ce moment et en dehors de cette période compliquée sur le reste de l'année. Ils ont besoin de vous. Solidarité, rugby, je finis, c'était long, désolé, mais rejoignez-les. Allez voir l'un et l'autre, allez voir. Protège son soignant.
Mais bravo, Charlie, bravo.
Bon, et toi, Thierry, là-dedans, parce que après la présentation fleuve de notre Charlie préféré là.
Le monologue.
Qu'est-ce que tu nous fais en ce moment?
Moi, je fais des podcasts, hein, parce que j'aime ça. Je fais des podcasts avec les enfants. Je fais Covid Kids et Covid Kids France, donc deux podcasts avec mes deux enfants, un en anglais, un l'autre en français. Donc ça, c'est pas mal. Je commence à faire des interviews avec ça aussi. C'est assez sympa. Non, bon, les gars, il faut qu'on parle de cet épisode-là parce qu'on s'est bien amusé. Il y a deux semaines où on a parlé de notre 15 de France de rêve et on a décidé, bah tiens, ça peut être pas mal de faire un 15 international de rêve. Donc les règles sont très simples, c'est on peut choisir des joueurs qui sont non actifs et qui sont pas français pour trouver les 15 de nos rêves. On y va les gars ?
Eh ben c'est parti !
C'est parti, j'attends que ça, je suis prêt pour une fois.
Pack de potes, terrain 10 !
Donc, pour faire notre 15 international de rêve, on va commencer avec du lourd, car ils sont les plus lourds sur le terrain, c'est les piliers. Allez, Charlie.
Ben, les piliers les plus lourds, ouais, et aussi, pour ma part, j'ai choisi un petit peu des plus chevelus. Pas seulement pour leur talent capillaire qui m'attrait, tu vois, en tant que Dredeux, mais moi, sur mes piliers droite-gauche, j'ai choisi Castro Giovanni, oui. Évidemment. Voilà, forcément, pour sa chevelure, pour aussi sa fin de carrière qui est magistrale, parce que se faire prendre en photo, quand tu loupes une demi-finale de Coupe d'Europe avec le Racing pour aller voir de la famille.
Pour aller faire la blague,
pour aller, non, entre guillemets, voir la famille en Argentine et te retrouver sur des photos avec le PSG en train de faire la bringue, c'est génial, en maillot de bain, voilà. C'est un génie. Pour moi, c'est un génie. Il était bon sur le terrain, il a eu une fin de carrière à la hauteur du bonhomme. Et de l'autre côté, bah, je vais mettre un autre chevelu, un peu le même physique, sauf qu'on passe d'un Italien à un Gallois. Et Adam Jones, voilà, pour moi, Adam Jones, c'était aussi un mec qui m'a marqué, quoi, en le voyageant sur le terrain. C'était un beau joueur aussi, et ce sera mon deuxième pilier qui rejoindra le Castro.
Et ben alors, moi, Charlie, j'ai pris l'extrême opposé, on va dire, parce que j'ai mon premier pilier, il est plutôt chauve. Non, mais au-delà de ça, en intro sur mes piliers, pour le coup, j'ai dû faire un petit peu de recherche, je l'avoue. Je suis retombée sur des archives, j'ai même interrogé mon père, savoir ce qu'il en pensait, etc. Bon, parce que sinon, j'étais pas assez calée. Et donc, j'ai mis. Je suis toujours restée sur une connotation latine avec Rodrigo Roncero, qui était évidemment, je n'oublie pas le Stade français, même dans les périodes compliquées.
Voilà, ouais, tu restes parisienne.
Exactement. Non, mais voilà, c'est un joueur qui pour moi m'a beaucoup marqué quand je regardais les premiers matchs de rugby. Il est en fait c'est un truc tout con en plus et qui me rappelle beaucoup mon oncle. Donc je pense qu'il y a un affectif autour de lui qui est absolument inexplicable. Et non voilà, je trouvais qu'il était il a beaucoup marqué en Argentine, il a beaucoup enfin avec l'équipe d'Argentine, il a marqué aussi évidemment avec le Stade français. Et voilà, j'aimais bien sa tête. Alors, je pourrais moins juger ses performances sur le terrain, mais voilà, j'aimais beaucoup ce joueur.
C'était un joueur très costaud, qui a été quand même assez régulier, qui a fait une grosse carrière, et il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il était médecin, ce gars-là. Il a fait
absolument,
partie
ouais.
Des derniers ouais. joueurs à avoir fait des études vraiment de haut niveau et en même temps embrasser une carrière de rugby professionnel. Ce qui,
t'as pas trop envie de passer entre ses mains quand même.
Je suis pas sûr que je lui confierais ma santé, mais en tout cas, il avait fait les études.
C'est pas impossible, ouais.
Mais moi, sur lui, un truc qui m'avait marqué, qui n'a rien à voir, mais qui me fait beaucoup rire à chaque fois, c'est, je sais pas si vous avez cette image, mais il y avait dans les derniers matchs qu'il faisait, il y avait le Stade français qui avait cette espèce de maillot dégueulasse avec Blanche de Castille.
Non, mais non,
devant.
Je vais pas dire ça.
Et il y avait un plan, non, mais parce qu'il y avait un plan que je trouve magique. En fait, il y avait juste la cabane de Roncero comme ça qui était filmée, et on avait l'impression que Blanche de Castille inspirait et expirait au fur et à mesure tu voyais ce gros bide parce qu'il fait quand même partie des derniers piliers à bide, quoi.
Il avait été un peu costaud.
Et voilà, c'était une image qui me faisait vachement marrer, quoi. Il a fait respirer Blanche de Castille sur son maillot, c'était drôle.
Pour moi, mon souvenir avec lui, c'est chaque fois, c'est oh non, pas lui, quoi. Quand l'Argentine jouait contre la France, et chaque fois, il était un peu hors jeu, et tu vois, il chopait le ballon chaque fois, mais non, pas lui, qu'est-ce qui se passe, mais non.
Ouais, c'est vrai, il a été un peu. La terreur noire de certaines lignes françaises. Et du coup l'autre pilier que j'ai mis, c'était Robert Paparambord, non pas parce qu'il a un nom très sympathique, mais je voulais voulu faire une dédicace à Théo parce qu'il a joué au Racing Club de France. Non,
oh, ça c'est gentil.
Ah, donc on a le droit au français, alors.
Non, on n'avait pas le droit au français.
Non, mais comme Alban a une fille, elle a tous les droits. Donc...
attendez, il faut que je reprenne tout. Non, mais j'avais... Non, non. Pour moi, c'était 15 international 100%. Mais aïe.
C'est pas grave, validez quand même, parce que je l'avais mis dans mon 15 de France type et je le bats, donc il n'y a aucun problème.
Voilà, bon, du coup, je ne vais pas trop élaborer sur lui, mais c'est un joueur qui a beaucoup marqué à son époque dans les années 80 de mémoire, c'est ça Théo ?
Ouais, fin 70, début 80, Grand Chelem 77, première victoire en Nouvelle-Zélande, enfin.
Je savais que t'allais être ma Bible.
Le consultant historique, quoi, n'est-ce pas Théo Metronge ? Sortez-moi les dates.
Bon, voilà pour moi.
Allez Théo.
Alors moi, je rejoins la nationalité argentine, mais j'ai en cherché un autre que j'adorais, et j'adore son après-rugby aussi, c'est un garçon qui s'appelle Omar Hassan, qui a fait une très très belle carrière sous l'équipe d'Argentine, qui était né, qui est natif du Liban, ou en tout cas ses parents étaient d'origine libanaise. Omar Hassan, ça fait pas très argentin au départ, donc déjà il y a un parcours de vie comme ça que je trouve toujours sympa, et puis c'est un type... voilà, qui ressemblait, qui avait un gabarit et une stature à la Pavarotti, et qui est devenu artiste lyrique après. Il avait une voix de stentor, de temps en temps on le voyait sur les troisièmes mi-temps animer des trucs en poussant la chansonnette avec un coffre pas possible. Donc voilà, il a quelques titres européens, un ou deux boucliers de Brennus avec le Stade Toulousain. Il a fait une belle carrière en France et une très belle carrière sous le maillot argentin, et maintenant il fait le Pavarotti sur les scènes du monde, donc je trouve que c'est tout à fait méritable.
Ouais, il chante sur certains matchs les hymnes de début et tout, c'est drôle qu'il ait encore un pied, ouais.
Bon, et effectivement, j'aime aussi ses parcours avec des noms qui sont un peu improbables, qui se retrouvent à défendre les couleurs du pays qui était un pays d'adoption, tout ça, je trouve ça toujours très chouette.
Tu imagines le trouver au pub, lui, ça serait superbe, quoi. Chanter des chansons de paillard.
Exactement. Non, mais
j'ai deux, trois sons à lui proposer, ouais.
Et puis l'autre pilier que j'adore, c'est un joueur qui s'appelle Os Durant, qui est bon, c'est vraiment l'archétype du pilier sud-africain. C'est 1m90, 135 kilos, deux Coupes du Monde, hein, puisqu'il il est champion du monde en 95 et en 2007, donc ça pose quand même le bonhomme. Et c'est un joueur voilà, qui a tout simplement tenu la baraque dans le pack des Springboks pendant 12 ou 13 ans avec un gabarit exceptionnel, tout à fait dans la lignée des piliers. Donc maintenant il est agriculteur, il n'a jamais arrêté, hein, il avait une ferme en Afrique du Sud, il continue ça. Et voilà, je trouve que c'est une belle image d'Épinal, de pilier qui fait rêver, qui voyage, et puis quand même deux Coupes du Monde, quoi. C'est pas rien.
Ouais. En parlant de quelqu'un qui a deux Coupes du Monde, j'ajouterais Owen Franks de Nouvelle-Zélande, qui est quand même assez jeune pour cette liste, mais je pense qu'il est plus sur l'équipe de Nouvelle-Zélande. Il a 108.
Quelle superbe transition, Tika.
C'est améliore. Okay, bon, je trouve que c'est assez excellent. Il a 108 caps pour le meilleur équipe du monde. Il a gagné deux Coupes du Monde. Tout ça avec zéro essai. Donc vraiment un travailleur de l'ombre par excellence.
On peut que valider cette performance.
Ah, moi j'aime.
Allez, on passe des plus petits des gros, c'est les talonneurs. Charlie.
Alors ouais, donc heureusement qu'il y a eu un rappel des règles tout à l'heure sur la francophonie et tout, parce que moi mon talonneur à moi, il s'appelle William, donc on pourrait croire en anglais, mais en fait je voulais aussi rétablir une petite vérité. Qu'on avait fait notre 15 de France, on en avait oublié un grand, pas par la taille, mais un grand par la nuque, on va dire.
J'aime bien parce que Charlie, à chaque fois, c'est des qualités physiques avant tout pour faire.
Non, mais j'ai donné une leçon, mais moi, c'est William Servat, voilà, quoi, qu'on a un peu oublié dans notre 15 de France, et qui est quand même un putain d'animal, et je pense qu'il faisait vraiment partie des joueurs qui, à leur poste, étaient badés par les adversaires. Et voilà, je voulais le placer là. Je sais que j'aurais dû le placer la semaine dernière, mais comme moi, je suis un peu comme Alban, je respecte pas les règles, voilà. Je m'en fous, qu'est-ce qu'il y a, voilà, William Servat, point.
Boum. Oui, bah Charlie, alors moi j'ai respecté la règle pour le coup, pour ce talonneur, promis. J'ai mis en avant, alors Sean Fitzpatrick, encore une fois, issu de mes petites recherches et de quelques vidéos YouTube que j'ai pu regarder. Il me semble qu'il était en plus capitaine, c'est un Néo-Zélandais, donc il était capitaine de son équipe lorsque la France, il me semble, a gagné ses trois test matchs en Nouvelle-Zélande contre lui. Donc en plus, il nous a fait gagner. Voilà.
Ouais, alors moi j'étais d'accord avec toi, Alban. Tu vois, j'avais choisi Sean Fitzpatrick, qui était vraiment un joueur qui m'a fait rêver. C'est un garçon qui est champion du monde en 87, arrivé un peu sur un strapontin parce qu'il avait pris la place d'un autre joueur qui s'était blessé juste avant le début de la compétition ou l'année d'avant ou je sais plus quoi. Et ensuite, il a été capitaine. C'est un gars qui a une centaine de sélections, bon, ce qui est quand même pas rien. Il était là aussi assez précurseur dans ce que sont devenus les talonneurs, très joueurs de ballon. En plus d'être un guerrier et un combattant, c'était un type qui était très adroit. Donc j'avais le même que toi, mais comme tu l'as dit, j'en donne un autre que j'ai adoré, c'est Keith Wood, le joueur irlandais que j'ai vraiment admiré beaucoup pour et son style et son énergie, son éternelle énergie, et puis ses courses. Voilà, c'est un joueur qui était probablement pas le plus costaud, pas très comparable à un joueur comme William Servat, mais super joueur que j'ai beaucoup aimé aussi.
Bah, Théo, tu as pris un joueur que j'aime bien, parce qu'une fois, je me souviens, j'avais des potes irlandais et je disais, c'est qui ce monsieur? Et il dit, ah, c'est The Raging Potato. En fait, c'est la patate enragée quand même sur son nom, mais je trouve ça quand même excellent parce qu'il est chauve comme patate et quand même comme surnom, c'est superbe.
Keith Wood, qui a été Lion britannique également, et je redis, si vous retrouvez sur internet ce reportage qui s'appelle Dans la mêlée avec les Lions, sur la tournée une des tournées des Lions britanniques dans l'hémisphère sud, où Keith Wood est chef de tribunal avec un balai de chiottes comme marteau, et il est extraordinaire. Et c'est aussi toute l'identité du rugby, ses à côté. On sent que c'était un mec très marrant, très sympa. Donc moi, pour pas mal de ces joueurs-là, c'est aussi des gars avec qui j'aimerais partir en tournée pour me fendre la gueule avec eux, sûr, quand même. Donc Keith Wood, c'est sûr qu'il est là.
Keith Wood, c'était 2001 Player of the Year quand même pour World Rugby, donc c'est pas rien. Il a marqué 15 essais, qui était pendant longtemps le record de on va dire les premières 5 dans le pack, qui ça vient d'être battu par un jeune américain quand même, qui s'appelle Joe Tuafete, qui est maintenant à Lyon, il me semble. Donc bien, welcome to France, Joe.
Ce patriotisme.
Okay. Des Américains, on monte.
Donc on fera un petit suivi l'année prochaine sur notre Américain qui doit être un peu Samoan sur les bords.
Allez, si on passait vraiment à des vrais travailleurs de l'ombre, je trouve que quand même en ce moment, c'est vraiment l'âge d'or des deuxièmes lignes. On a Itouje, Brody, Retelac, Iban, Esbet et tout ça. On a des grands joueurs de deuxième ligne. Mais quand tu regardes dans le passé, quand même, moi je vais démarrer, si je peux, avec Martin Johnson. Tu dirais que c'est un mec d'un autre époque quand même.
Ouais, bah c'est un boucher comme on n'en fait plus, quoi. Mais c'est vrai que les deuxièmes lignes ont encore cette réputation, enfin ont encore cette image de joueurs moyenâgeux, quoi. Tu les vois avec un casque et partir en croisade. Enfin, il y a un peu ce côté dans le deuxième ligne avec des grosses mains de bûcheron et tout. Mais c'est vrai que ça tend à disparaître parce que les deuxièmes lignes actuelles, il leur faut, et tant mieux d'ailleurs, beaucoup plus de jeux et beaucoup plus une plus grande palette. Mais on garde cette image du deuxième ligne un peu sale. Et oui, clairement. Ton choix va dans ce sens-là, quoi.
Alors, ton deuxième, Charlie.
Alors, oui, attends, parce que moi, je n'ai même pas cité mon premier. Attends, mais lancez-moi. On part.
On croyait que tu étais d'accord avec lui.
Ah, mais non, mais je valide, mais attention, j'en ai d'autres aussi. Et moi, je vais dans ton sens aussi, c'est-à-dire que je vais... C'est vrai que parmi ceux que tu as cités dans les modernes, dont Itouje, dont on a beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on parle très peu de deuxième ligne dans ce podcast, donc je suis très content qu'on mette un peu de lumière.
On parle que de ça.
Laisse-moi finir, enfin. Ne m'interromps pas quand je parle de deuxième ligne. Non, pour moi, c'était évidemment Paul O'Connell, a.k.a. Poc, qui est un peu le bruit que tu entends quand sa main se posait sur les joues ou sur la nuque d'un adversaire. Non, Paul O'Connell, qui était déjà, qui est un peu ce monstre, hein, c'est Shrek, enfin, c'est le rouquin flippant. Mais il avait, en plus de cette violence, dans les môles, quand il surnageait sur les môles, enfin, c'était un peu un bel animal, mais il avait déjà cette aisance dans les airs qui était assez hors du commun. J'ai en mémoire une image du tournoi Destination où il va vraiment faire un contre, mais du bout des doigts, où t'as l'impression que ses phalanges, c'est des tubes de UHU, quoi. C'est assez incroyable. C'était un beau joueur, sale sur le terrain et beau en l'air. Voilà, c'est mon premier deuxième ligne. Et le deuxième, je vais rester un peu sur cette lignée de sale type, quoi. C'est un peu, je fais pas mon 15 débouché, mais il y a de la boucherie concentrée là dans mes deuxièmes lignes. Le deuxième, c'est évidemment Bakis Botha. Je vous prends peut-être de court, hein, les autres, parce que je pense que tout le monde a, beaucoup de gens ont pensé à lui. Bakis Botha, qui était vraiment, si je pense dans le dictionnaire à dur au mal, il y a sa gueule à côté, c'est pas possible. C'était un mec à la fois dur, violent, hein, on peut dire violent. Enfin, il a marqué des joueurs à l'international, il en a marqué. Mais à côté, sa fin de carrière à Toulon, c'est quand même un mec qui était capable de. Moi, j'ai cette image où il a rattrapé un ailier à la course. Enfin, c'est il était archi complet, archi redouté et respecté par ses adversaires. Enfin, c'est un mec en plus qui aimait ce chocolat. Enfin, quand tu lis ses interviews, c'est un mec quand il parlait des autres deuxième ligne, il les considérait à partir du moment où il faisait peur, quoi. C'était vraiment ça. Donc c'est ces deuxième lignes anciennes. Et Bakis Botta, c'est un seigneur parmi les seigneurs. Il a fini d'ailleurs par bosser dans la viande. Hein. Il a un business de viande séchée en Afrique du Sud. Donc c'est pas surprenant. Il a dû prendre 50 kilos
viande
de
viande séchée. Vous
voyez ces photos aujourd'hui, t'as encore moins envie de le rencontrer sur un terrain parce que je pense il aurait encore plus la flemme de courir. Donc il te fera encore plus mal quand il te chope. Quoi.
C'est tous ses adversaires qu'il a tués.
Oui, c'est ça. Il a mangé tous ses adversaires.
Waouh, wow, c'était une explication avec beaucoup de ferveur. Je pense que je ferai jamais aussi bien que toi, Charlie. Mais voilà, je sens beaucoup de passion dès que tu parles de ces postes. Mais moi, j'avais effectivement Paul O'Connell en première, deuxième ligne, on va dire. Et l'autre, c'était Martin Johnson. Alors, ça me fait du mal de dire ça parce que voilà, c'est un Anglais et que en plus, je me souviens quand je regardais les matchs de l'Angleterre à cette époque-là, donc 2003, enfin 2003, etc. C'est vraiment le moment où j'ai commencé à vraiment beaucoup regarder le rugby. J'avais 12 ans, donc voilà. Mais et je me souviens que je le détestais à l'écran, mais au final, c'est vrai que c'était quand même un deuxième ligne dans toute sa splendeur, très robuste, qui faisait vraiment tout le taf. Il arrivait à faire gagner les matchs, même les plus moches. Voilà, c'était un peu le deuxième ligne old-fashioned, mais qu'on aime beaucoup, et d'une grande efficacité dans mes souvenirs un peu lointains. Voilà, mais bon, ça reste un Anglais.
Ouais, alors moi, vous avez... Heureusement, vous ne m'avez pas tout spoilé. Mais je suis obligé d'être d'accord avec vous sur Martin Johnson, qui est vraiment l'Anglais qu'on déteste, mais parce qu'il est énorme. Et voilà, vous avez tout dit. Champion du monde 2003, capitaine de cette sélection. Seul ouais. titre européen quand même, hein, c'est pas rien. Et c'est un gars, c'était son projet de vie. Et son projet de vie, c'était de rentrer dans la gueule des mecs, c'est tout. Donc, là-dessus, il est quand même énorme. Il est quand même énorme. Et moi, j'aime ces deuxièmes lignes qui font échapper les mecs d'en face. Quoi, et il en faisait clairement partie. Donc, t'as cité Paul O'Connell, qui était évidemment un super joueur. Il y a une très belle petite bagarre entre lui et Jamie Cuddmore.
Ah oui,
on sent
oui,
qu'il
voilà.
y a de l'intelligence. On est au bord du prix Nobel. Donc, tout ça, c'est bien, mais moi, je vais quand même aller vous chercher un deuxième ligne élégant, qui était un joueur vraiment d'une classe exceptionnelle, qui s'appelle John Hills. C'est un Australien qui est champion du monde en 99 et qui est capitaine de l'Australie à pas mal de reprises. Ouais, 2 mètres 115 kilos, classique, très très propre, une superbe carrière. Et surtout, pour un joueur du début des années 2000, c'est le dernier, ça n'est pas arrivé depuis, c'était le buteur de son équipe alors qu'il jouait deuxième ligne. Donc, moi qui ai toujours rêvé de mettre des points au pied en match, et évidemment j'ai les pieds carrés, j'aurais pu arroser toutes les tribunes. Le mec était buteur, il enquillait des trucs de 45 mètres alors qu'il était deuxième ligne. Donc John Hills, je te rêve.
Voilà. juste pour la petite anecdote de O'Connell Cuddmore, il y avait eu un super truc sur Canal Plus quand il faisait la séance rugby, je crois que ça s'appelait, où pour la Saint-Valentin, ils avaient un peu interrogé tous les grands connards hein, de Top 14, si tu veux, beaucoup de deuxième ligne, et ils leur demandaient voilà de dire des mots d'amour un peu quoi. Et ils ont demandé à Jamie Cuddmore quel est le joueur dont il était amoureux, et dans un grand sourire, il dit Paul O'Connell quoi. Comme quoi, ça, voilà, quoi, ils s'aiment, ça les a marqués, ils s'aiment. C'est du rapprochement, tout ça.
Je pense qu'aussi, on peut ajouter Victor Mayfield d'Afrique du Sud, quand même, avec 127 test match. Il est aussi toujours, il est pas moche non plus, il a un gueule assez d'ange, quand même. Donc, je pense peut-être on peut l'ajouter dans la liste des grandes hommes. Allez, si on passait à des machines à plaquer, les 6 et 7, les ankle biters.
Je vais essayer de faire court parce que moi il y a Pocock, pardon, mais David Pocock c'est plus récent, c'est moins légendaire, il y a beaucoup de choix hein, de toute façon en troisième ligne, c'était très dur d'arrêter ses choix, mais pour moi c'est un mec qui m'a marqué parce que sur le terrain il est incroyable de grattage, de présence physique, enfin son physique me fait peur personnellement quand je vois des photos de lui torse nu, je me liquifie.
C'est vrai que ça fait peur.
Il est vraiment flippant. Et même en dehors, c'est un mec qui est un peu engagé quoi sur l'environnement, sur les droits LGBT. C'est un mec qui est assez. C'est un mec qui a l'air violent sur un terrain, mais qui est super cool et qui a marqué des coupes du monde aussi, une en particulier. Et voilà, moi je voulais juste faire un petit coup de projecteur sur.
C'est un faux Australien parce que je te rappelle qu'il est né en Afrique du Sud.
D'où éventuellement une proportion à la guerre, oui, de sa sud-africanité,
tout à fait,
forcément, qui est plus évidente. Mon deuxième, on va pas s'arrêter là-dessus parce qu'en vrai, je le hais. Et c'est pour ça que je le nomme. C'est Richie.
Non, tu l'aimes.
Ouais, Richie Mac.
Tu l'aimes.
Cette espèce de c'était quoi? On avait une chanson avec les copains. C'était Richie Mac rentre sur le teco. Parce que c'était voilà, toujours à la limite de la règle, toujours mais brillant évidemment. Deux coupes du monde à son actif. Hein, bon, écoute.
Alors effectivement, c'est une évidence pour Mako. Je l'avais également dans mes troisième ligne L favori. Pour rappel, il a été nommé trois fois joueur de l'année par World Rugby en 2006, 2009 et 2010, ce qui est assez exceptionnel pour un joueur. Je pense que aujourd'hui, il fait vraiment partie des, enfin dans les joueurs modernes évidemment, mais c'est un mec qui est connu aussi de, je pense, en dehors des frontières du rugby et voilà, ouais. il a une aura aussi internationale. Enfin, c'est une star internationale et c'est vrai comme tu le dis sur le terrain. Je pense que ça reste le joueur le plus haï de tous, enfin un de ceux. Et voilà, je lisais tout à l'heure un article comme quoi ceux qui disaient que Richie Mako était toujours hors jeu étaient des mauvais perdants. Donc voilà, on finira là-dessus.
On est beaucoup de mauvais perdants.
Ouais, ouais, je pense aussi. Mais et l'autre que j'ai cité, moi, c'était François Piénard, alors qui a peut-être pas forcément été un grand joueur dans sa longévité avec l'Afrique du Sud, mais voilà, je trouve qu'il représente un symbole très important dans le rugby et il a été là. C'était le capitaine de l'Afrique du Sud en 95 et voilà, je trouve qu'il a su mener ses hommes pendant cette période qui était assez compliquée où le rugby a pris une place très importante pour un pays mais aussi dans le monde entier. Et voilà, je trouve que pour le symbole, il est à noter. Et puis en plus, je pense que c'était un très bon joueur sur le terrain, mais je pense que Théo saura m'en dire plus par rapport à ça.
Je pense que ce qui est intéressant, il a joué que 29 fois pour l'Afrique du Sud et après, il a eu une super carrière dans le cinéma où il a fait The Bourne Identity, Ocean's Eleven, The Martian.
On peut pas tout faire.
C'est sûr.
Non, François Piénard, au-delà du nom qu'on est obligé de bien aimer, même si ça ne s'écrit pas comme nous on aimerait l'écrire, c'est effectivement
aime, ouais.
un joueur emblématique d'une époque, qui est une époque un peu troublée aussi, parce que le titre de 95, il n'est pas complètement.
Ils l'ont volé !
Parce que la demi-finale contre les Français, bon, on n'en reparle pas. La finale contre les All Blacks, il y a quand même eu cette histoire de tous les mecs qui se sont tapés la distance. Entrée la veille et compagnie, c'était un peu bizarre sur les bords.
C'est touchy.
Voilà, plus les soupçons quand même autour du dopage plus ou moins présumé de l'équipe. Et on en reparlera peut-être. Il n'en reste pas moins que François Piénard était un grand joueur, un grand capitaine et qu'il a incarné cette époque. Et je trouve qu'il est tout à fait éligible. Alors moi, j'ai été chercher deux joueurs. Un petit peu moins récent, Zinzan Brook, qui pour moi était vraiment le troisième Linel qui sait tout faire d'une très grande adresse, champion du monde 87, défait en 95 par les Sud-Africains, mais une magnifique carrière, All Black également avec son frère Robin. Moi j'aime bien les histoires de fratrie, j'en ai une autre pour après. Et puis en plus il s'appelle Zinzan Valentine Brook, ma fille s'appelle Valentine, donc j'étais obligé de le prendre. Et puis l'autre troisième lignel que j'aimais bien, c'est un joueur écossais qui est pas très connu, mais c'est surtout une anecdote qui me fait penser à lui. C'est quand même un gars qui a été international à de nombreuses reprises, qui a été dans les Lions britanniques, qui s'appelait Rob Wainwright. Il jouait troisième lignel et ce garçon-là était médecin militaire. Et un jour, il jouait un match. Il y a quelqu'un qui a fait un malaise dans la tribune. Il a pris conscience de ça. Il est sorti du terrain. Il est monté dans la tribune. Il a fait un massage cardiaque au mec. Il l'a sauvé. Et il est redescendu finir son match. Donc, moi, rien que pour ça, le mec, je peux pas m'empêcher de le mettre là parce que c'est vraiment, c'est des histoires qu'on peut pas inventé tellement elles sont incroyables et que je trouve absolument magnifiques. Et du coup, c'est devenu une légende à ce moment-là dans son pays, dans son équipe, etc. C'était pas un match international, hein, c'était un match de club ou de province, je me rappelle pas. Donc Rob Wainwright, super troisième lignel et en plus héros d'un jour.
Super.
Superbe cette histoire. Bah écoute, à ça, j'ajouterai Schlack Burger parce que c'est un type de burger qu'on va trouver dans un film de Tarantino. Sinon, j'ai cherché pour des petits pays quand même, et j'ai trouvé Todd Cleaver des États-Unis, parce qu'il a quand même 14 ans avec 100 caps, il a aussi joué au 7, donc pourquoi pas. Et je pense que Jamie Cudmore, un peu quand même, au niveau des joueurs canadiens, je pense que c'est un des plus grands joueurs canadiens. Mais je dirais en réalité, quand même, il y a Sam Warburton de Pays de Galles, qui franchement, il y a une super vidéo sur YouTube par un gars qui s'appelle Squidge Rugby, qui vient de se mettre dans le monde de podcast aussi, Squidge, qui c'est très difficile à entendre parce qu'il parle avec un grand accent british qui est assez très très vite, mais regardez Sam Warburton Squidge sur YouTube et il décrit pourquoi Sam Warburton est tellement bon, tout le travail qu'il fait, et c'est vraiment vraiment intéressant.
Génial.
On note surtout que tu réussis à nous placer un américain dans chaque
ça devient quand même douteux.
C'est la dernière, ouais. C'est la dernière.
Un jour, on va faire l'équipe de foot américain de nos rêves et on va te foutre des Français. Tu vas voir ce que ça fait.
Il y en a un, peut-être deux, donc ça va.
Richard Tardit.
Voilà. Je pense que là, on passe à les plus polyvalents des avants. En fait, je pense que tous les avants qui ont plus de 1m80, ils rêvent d'être le numéro 8. Donc, Charlie, est-ce que tu peux démarrer?
Ouais. Alors, attention, tous les avants qui savent jouer au rugby rêvent d'être numéro 8. Non, faut préciser.
Ou qui croient qu'ils savent.
Ou qui croit, ouais, exactement, il croit qu'il sache. Écoute, moi, ça va être très rapide, parce que je sais qu'on prend beaucoup de temps, là, donc je vais être très rapide, très évident, et je ne dirai qu'un mot, Parissé. Voilà.
Voilà.
Je pense que tout est dit là-dedans. Moi, mon 8 de légende, c'est Parissé, rien à dire. Si je m'étends un peu quand même, parce que d'une, Paris, putain, il a été fidèle à ce club, alors que ce club, il aurait pu partir à des milieux, il a été fidèle à ce club, il a fait des choses formidables dedans, et comme il a porté un club de Paris qui a été un peu pourrissant pendant certaines années, où il l'a quand même porté, il a fait pareil avec l'équipe d'Italie, c'est un peu le leader body, quoi. Il a été capitaine de ces deux équipes, pas toujours florissante, et c'était un mec, tu ne peux que le bader, ce gars, c'est incroyable. Paraît-il qu'il avait un melon pas possible. Honnêtement, j'en ai rien à foutre parce que quand tu le regardais sur un terrain, c'était beau à voir. Et voilà, mon 8 à moi, c'est Paris.
C'est un leader, c'est un magnifique leader, on ne peut pas dire autre chose.
Ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que je l'avais cité aussi dans mon top 8, enfin dans mon 8 de cœur. Effectivement, j'aurais ajouté sa capacité à embarquer des hommes, ouais. Même quand il parle même pas dans sa propre langue, c'est-à-dire que les discours au Stade Français pour réveiller les mecs, même quand ça allait mal là, dans ces quelques dernières années, c'était un vrai capitaine et il y allait quoi qu'il arrive, quoi. Donc c'est, je trouve qu'il est c'est vraiment beau et assez impressionnant à quel point il a réussi aussi, il a une certaine longévité hein, de manière
oui,
générale. Et voilà, après j'avais aussi hésité avec Kyrian Reeds, actuel Néo-Z, encore élu meilleur joueur du monde en 2013, qui a fait deux coupes du monde, qui est un superman à son poste.
Mais
Paris c'est en premier.
Évidemment.
Alors moi, je vais vous emmener au Pays de Galles. Vous avez parlé de Warburton. Moi, un gars un peu avant qui m'a vraiment fait rêver, qui s'appelle Scott Quinnell, qui était un joueur de Clanecly et du Pays de Galles, qui avait deux frères, donc Craig Quinnell qui jouait deuxième ligne et un autre qui s'appelait Gavin. Je crois pas qu'il ait été international. Scott Quinnell, c'est 1m93 ou 14, 125 kilos, donc le numéro 8, un peu bedonnant, très très costaud, avec une grande facilité, et surtout un roi de la percu, mais énorme. C'est-à-dire que quand il jouait à Clanecly, j'avais un copain qui avait été voir un match là-bas, et qui m'avait dit, mais quand le 15 tape et une chandelle, et que Scott Quinnell récupère le ballon, et qui se lance, t'as tout le stade qui fait qui vibre, et tu sens que tout le monde se dit c'est pour qui la percu. Et donc là, ce mec là, je l'adore. En plus, trois frangins, les trois 125 bars, donc des cimetières à poulet de première catégorie. Je peux même pas imaginer le menu de Noël chez les Quinnell avec Madame Quinnell au fourneau. Tout ça, ça me fait rêver. Donc, Scott Quinnell, je te rêve.
C'est la fratrie numéro 2 après les Toulagi en assassinat de poulet, quoi.
Ouais, ils sont pas mal.
Je pense que vous avez tout dit. Eh bien, j'ajouterai juste Laurence Dagaglio.
Dalaglio, si Dalaglio.
C'est l'anglais.
Dalaglio.
Dalaglio, j'y avais pensé. C'est probablement un fils d'immigré italien, parce que Dalaglio, il n'y a pas plus rital que ça. Mais en anglais, c'est impossible à dire. Dalaglio, je ne sais pas comment ils disent ce truc-là.
Dalaglio.
Dagaglio. Allez, on passe aux des petits généraux, les numéros 9.
Ouais, alors, encore une fois, je vais peut-être faire un peu trop original. C'est, moi, je vais citer Keller. Voilà, je vais citer Keller parce que bon, il a quand même eu une belle carrière.
C'est Baron Keller de Nouvelle-Zélande.
Baron Keller, absolument, de Nouvelle-Zélande. parce qu'il a une fin de carrière assez amusante. Hein, on va y revenir, mais d'abord, je vais commencer en disant plus rugbystiquement, que c'est quand même le fer de lance un peu de ce type de numéro 9, archi-physique, archi-dense. C'est-à-dire que tu disais justement, pour lancer les 9, les petits généraux, on a l'habitude de ce mec un peu plus gringalé que les autres, mais qui a cette capacité de l'idée des gros...
Ouais, lui, c'était un 9e avant.
Lui, c'était clairement... Voilà, c'est l'exemple type du 9e avant, qui était lourd, le bison, on l'appelait. Enfin, c'était vraiment... Il était beau à voir jouer, je trouve. Et sa fin de carrière m'amuse beaucoup parce qu'il a quitté Toulouse sur deux trois bricoles. Voilà, il paraît qu'il s'est lié d'amitié voire plus avec la famille Noves. Il a eu plein d'histoires d'être bourré, de machin et tout. Il est arrivé à Paris en mode rédemption. Allez, dernière saison, je finis sur un truc beau. Bah, le mec, il a découvert la rue de la soif, hein, clairement. Donc sa fin de carrière à Paris, elle a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. Mais moi, je voulais le citer parce que au-delà de ces petits déboires qui arrivent avec des joueurs, enfin, voilà quoi, chacun son caractère, chacun sa trempe. Au-delà de ces déboires, c'est le représentant des 9 puissants, on va dire, voilà, des 9 des 9e avant, comme tu dis, Théo.
C'est un bourrin.
Un bourrin,
c'est
ouais.
Vrai.
Oui.
Et ouais, ben bah alors c'est vrai que tu m'impressionnes parce que du coup j'ai même pas pensé à lui et en fait en t'écoutant c'est vrai qu'il était solide comme on dit.
Tout à fait solide.
Tout à fait c'est solide, bon. Ouais. Moi je m'étais noté George Gregan, l'Australien,
oui, qui un joueur très élégant.
Oui, ouais, qui exactement. C'est tu m'as ôté les mots de la bouche, mais qui encore une fois à l'époque où je m'instruisais au rugby m'épatait par sa je sais pas, il avait effectivement une classe et je trouve qu'il avait un style de jeu encore un peu à l'ancienne avec beaucoup de... Enfin, pas à l'ancienne, mais comment dire... Beaucoup de... Évidemment, un stratège comme tous les 9, mais je trouvais, je sais pas, il avait un rugby, un type de rugby que j'ai un peu... Je regardais un peu les prouesses aussi de Gareth Edwards dans le type de vitesse de course, etc. Et je trouve que George Gregan, il avait cette fuite, il avait une certaine fusée aussi un peu aux jambes et voilà, il avait une vitesse de course de mémoire assez impressionnante et voilà, un sens du jeu qui était assez fou et qui a beaucoup marqué l'équipe d'Australie à son époque.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alban, parce que je trouve que c'est un gars qui, t'as l'impression qu'il rendait tout facile autour de lui. C'est comme quand tu vas au café, c'est comme au bureau, le mec qui toujours, il vient de faire le café pour toi. Tu dis, ah oui, c'est superbe ce mec, tu vois, il fait le petit passe juste au bon moment. Et aussi, je pense, comment le dire, mais quand même d'être un des premiers blacks dans cette position de numéro 9, je trouve que c'est assez important. Je sais qu'aux États-Unis, dans le foot américain, ça prenait beaucoup, beaucoup de temps qu'on a eu finalement des quarterbacks noirs. Et maintenant, c'est assez connu et maintenant, c'est normal, on va dire, mais ça prenait beaucoup de temps. Et je pense que pour lui, d'être un des premiers blacks dans sa position de numéro 9 de petit général, je pense que c'est important. Et 139 caps aussi, quand même.
Oui, oui, c'est sûr qu'il a un record de caps qu'il a détenu pendant un certain temps.
Gregan, c'est tout ça, et c'est une longévité extraordinaire. C'est vrai que c'est un joueur qui a été indéboulonnable. Moi, je vais aller chercher un joueur sud-africain, champion du monde en 95, surtout pour son style et sa gueule. C'est-à-dire que c'est vraiment le demi de mêlée racé au bon sens du terme, avec une gestuelle, une qualité technique extraordinaire, pas très costaud, entouré de monstres, puisque les Sudaf de cette époque, ils ont toujours cette culture du jeu extrêmement physique. Donc Joost van der Westhuizen, qui malheureusement est mort de la maladie de Charcot ou une saloperie comme ça, ça a fait un petit peu parler aussi, parce que toujours pareil, c'est à quoi il tournait à l'époque. Il y avait pas mal de joueurs de cette génération. On avait parlé de Chester Williams, du troisième lignel aussi qui est mort récemment d'une tumeur,
il y
etc.
Avait un, donc un super docu de Stade 2.
Ouais, c'est un peu bon, c'est un peu douloureux. Il en reste pas moins que ce joueur-là, qui a été champion du monde avec quelques gestes de classe, y compris en finale contre les Néo-Zélandais, etc. Et puis il avait ce regard bleu acier qui en faisait un joueur avec une espèce de gueule d'ange dans un monde de mammouth là. Donc moi j'étais toujours très très marqué par l'élégance de ce joueur. Donc voilà, s'il nous écoute de là-haut, j'aimais bien te voir jouer, Joost.
Est-ce que je peux faire un petit pause vocabulaire? Parce que là, tu as utilisé un mot indéboulonnable.
Indéboulonnable.
Alors, indéboulonnable, c'est le contraire de boulonnable ou de déboulonnable, plus exactement. Donc, quand tu,
ça
prends,
m'aide pas du tout.
Quand tu prends un boulon, tu serres quelque chose très très fort avec une clé, tu vois, et un écrou d'un côté et puis une tige de l'autre, quoi. Et tout ça,
okay, c'est... Donc là, déjà, j'ai... Donc déjà, tu me donnes 3-4 mots de plus que je dois rechercher, parce que...
Alors, un boulon.
Non, bon, bon, on continue, on continue.
Est-ce que Tiquet, on pourrait pas songer pour le podcast à un petit jingle, apprenez le français dans les yeux d'un Américain.
Avec nous.
Allez, learn French with rugby.
Les expressions de France.
Bon, on parlait d'expression. Moi, j'ai une petite expression. C'est pour être beau, il faut un défaut. Et là, on va parler des numéros 10. C'est les monsieur parfaits pour moi. En fait, ils savent tout faire. Ils savent plaquer, ils savent courir, ils savent faire un coup de pied. Mais ils m'énervent un peu, en fait, en tant qu'avant. Je sais pas. Donc,
je le dirais différemment. C'est que le 10, s'il sait pas plaquer, on le voit beaucoup, quoi. C'est un peu les pauvres.
Non, c'est fou. Si, il y en a au moins deux qui sont parfaits.
Donc allez, on va parler des numéros 10.
Je vais encore griller la priorité à pas mal d'entre vous. Pour moi, c'est évidemment Sir fucking Johnny Wilkinson. Écoute, je sais pas quoi dire. Son parcours de vie est assez incroyable parce qu'il a été très tôt sur le devant de la scène, très tôt déifié. Dans le rugby en tout cas, il a été très tôt déifié, il a eu beaucoup de problèmes de santé derrière qui ont un peu entaché son image, on l'a pensé fini assez vite. Quand il est arrivé à Toulon, nous en tant que Français, franchement on l'a redécouvert à Toulon, c'est incroyable. Quand il est arrivé, c'était vraiment un pari de Boudjelal parce que le mec était blessé de partout, les assureurs ils suivaient pas forcément, c'était vraiment un pari. Et il est arrivé, il distille sa classe vraiment auprès de tous ses coéquipiers. C'est quand même, je crois, le seul international anglais qui a fini sa carrière en top 14 avec un Stade de France qui chantait le God Save the Queen pour lui parce que c'est Johnny, quoi. Il le mérite. C'était un mec qui a fini capitaine de son club. Il était incroyable. Si vous voyez sur Internet, sur YouTube, les discours qu'il avait de capitaine, il faisait ses discours en franglais. Il parlait aux deux. Et tu vois, c'est un meneur d'homme. Il est dingue. Et il a une espèce de bouddhisme autour. Voilà, le mec flotte. C'est un ange blond qui flotte. Voilà, moi, mon 10, c'est Wilkinson.
Comment ne pas te rejoindre, mon cher Charlie, après cet hommage magnifique au roi, au maître. Franchement, pour moi, c'est tout pareil. Hein. C'est une palette complète à la fois sur le terrain, mais je pense que ce qu'on retient surtout, parce qu'il y en a, il y a beaucoup de disques qui sont excellents, mais c'est son attitude, c'est l'esprit, c'est tout ce qu'il a réussi à transmettre. Je pense que c'est le seul joueur anglais qui permet aux Français d'aimer un tantinet les Anglais et ne pas les détester parce qu'il existe et qu'il a, voilà, c'est juste un joueur d'une classe mondiale. Je sais pas, honnêtement, presque j'en perds les mots, mais je suis d'accord avec toi que sa carrière à Toulon, enfin sa fin de carrière on va dire à Toulon, a beaucoup marqué les esprits parce qu'effectivement qui aurait cru qu'il aurait autant de succès et qu'il ferait pas comme tous les internationaux aujourd'hui qui sont un peu en demi-teinte. Y a pas que lui qui a excellé, mais voilà,
comme Keller.
Comment? Oui, voilà, comme Keller que tu citais tout à l'heure, mais je sais pas, voilà, il a vraiment cette humilité aussi au cœur de son, enfin le travail qu'il mettait dans pour parfaire tout son jeu, c'est juste incroyable. Et en plus c'est vraiment quelqu'un qui humainement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de faux chez lui, quoi, tout sonne vrai, tout sonne comme Monsieur Parfait. Et en plus de ça, effectivement, physiquement il est pas non plus dégueulasse. Non mais au-delà de ça, je veux pas faire la fille qui ramène à ça, mais honnêtement c'est voilà, tout paraît vrai chez lui et tout est vrai chez lui. Et au-delà de son talent, je pense que c'est vraiment un homme d'une classe vraiment mondiale et angélique, comme tu dis Charlie.
Bon, vous avez tout dit. Moi, je c'est pas celui que j'avais choisi, hein, mais c'est vrai que Wilkinson, il a en particulier le mérite d'être le 10 des champions du monde 2003. En étant assez jeune à l'époque et en ayant gagné entre guillemets son duel très très haut la main face à Frédéric Michalak en demi-finale. Ensuite, sa carrière, c'est la carrière d'un travailleur acharné.
incontestablement, d'un mec sans pitié avec lui-même avant d'être sans pitié pour les autres, ça c'est certain. Maintenant, je trouve que c'est un joueur qui manque un peu, qui a manqué un peu de romantisme et de, il est presque trop parfait. Voilà, c'est ma petite critique. Voilà. Donc moi je vais en préférer un autre qui est un grand joueur qui a plus de titres de champion du monde que lui et qui a en plus porté les couleurs du Racing. Donc je suis désolé de vous présenter Daniel Carter.
Ah,
qui est pour moi, c'est le Federer du rugby, quoi. C'est-à-dire que c'est un joueur
qui
donne une impression de facilité dans tout ce qu'il fait, contrairement à Wilkinson, je trouve, qui est d'une classe intemporelle, avec aussi cette présence dans les grands rendez-vous qui est la marque des champions. C'est-à-dire prendre ses responsabilités quand t'es le boss, aller au bout, expliquer à tout le monde que t'es là pour ça, c'est la marque des grands champions, et le faire avec le sourire et un peu une gueule d'ange aussi.
C'est vrai.
Je vous dis, moi, il me fait un petit peu penser à Roger Federer. Voilà. Donc Daniel Carter, pour moi, est un peu devant Johnny Wilkinson. Et puis, pour le prouver, je dirais juste qu'il a 2 titres de champion du monde. C'est
bon, d'accord.
Dan Carter, il est pas dégueulasse non plus, hein, si j'étais une fille.
Ah oui, non, je te confirme que moi j'avais fait un événement avec lui, j'ai organisé le lancement, un événement de lancement pour lui et une marque, et c'est vrai que j'avais discuté avec lui, et c'est pareil, il est d'une humilité incroyable, si tu veux, il avait rien à faire, il avait plein d'autres choses d'autres qu'à faire comme parler, et on a bien échangé, et c'était vraiment très agréable de rencontrer un joueur de cette classe-là. Voilà pour ma petite anecdote groupie.
Bien.
Si je peux me permettre, Alban, niveau groupie, tu vois, j'ai aucune leçon à te donner, parce que moi, le rugby féminin m'a beaucoup intéressé quand j'ai découvert Magali Hervé, voilà, qui était joueuse ailière du Canada.
Elle a marqué beaucoup d'esprits en 2014.
N'est-ce pas, oui, et comme je comprends ces esprits, des grands esprits sans doute.
Oui.
Allez, si on passait à nos arrières les plus lourds, parce qu'on aime bien le steak ici, à Pack de Potes, les centres.
Bon, pour moi, il y a Brian O'Driscoll qui a vraiment marqué... qui a marqué une décennie dorée déjà de l'Irlande, du rugby irlandais, qui a marqué une génération dorée du rugby irlandais, qui a vraiment survolé les débats. Il nous a fait mal à nous en tant que Français par quelques matchs. Et voilà, pour moi, il fait partie des messieurs du rugby et je ne pouvais pas parler de son poste sans le citer. Après, avec qui le mettre sur cette feuille de match, c'est très dur. Hein. Mais... après beaucoup d'hésitation, j'ai penché sur Matt Dito, en fait, parce que en plus de ses qualités, le mec, il a quand même fini par jouer 10, enfin il avait vraiment beaucoup de compétences rugbystiques, et en plus, en dehors de ça, de ce que je vois moi sur les réseaux sociaux, sur tout ce qu'il est, c'est une super bonne patte, c'est un mec formidable, c'est un mec qui apporte à un club non seulement ses qualités rugbystiques et son multiposte, mais en plus son côté humain, et en plus je pense qu'il a amené beaucoup à un groupe et à une équipe. Voilà, donc voilà pour mes centres.
Eh bien, Charlie, je vois qu'on continue de suivre la même voie. J'ai également Monsieur O'Driscoll, presque seigneur dans ma liste, qui aujourd'hui détient d'ailleurs le record d'essais marqué par un centre, toujours. Voilà, c'est pour la petite stat. Mais joueur de grande classe qui, je pense, est aujourd'hui assez indétrônable, enfin, dans le sens où, en cherchant, c'est vrai que c'est un des centres qui a marqué vraiment toute une génération, et j'ai eu un peu plus de mal à trouver le deuxième, et je suis tombée sur un joueur un peu plus moderne, on va dire, qui est encore en activité, c'est Sonny Bill Williams, qui est un joueur épatant par sa palette de jeux, dans le sens où il a commencé au rugby à 13, il me semble, il est passé à 7, il est passé à 15, il est d'une complétude assez effarante et une capacité, enfin d'un niveau technique, je trouve, sur le terrain qui est incroyable, tout le monde se...
Et physique,
oui, bien sûr, mais sa capacité à aller fixer des défenseurs et faire une passe après contact de je ne sais combien de mètres, voilà, c'est juste moi c'est un joueur que... assez exemplaire, moi en tant que centre, j'avoue que j'aime beaucoup son jeu, j'essaye de faire tout pareil, ça marche pas tout le temps, mais non, c'est un joueur que j'aime beaucoup, et en plus de ça, je trouve qu'il a un parcours de vie assez intéressant, parce que c'est un joueur qui s'est converti à l'islam, qui rentre pas dans toutes les cases, on va dire, un peu plus classiques d'un sportif de haut niveau, je dis pas dans le sens religieux, mais voilà, il a une intimité personnel qui est assez étonnante et qui ne l'empêche pas, pour le coup, d'être un joueur d'un niveau international assez incroyable.
Ouais, alors moi, je vous rejoins sur Brian O'Driscoll parce que lui aussi, il est indéboulonnable. Ça, maintenant que Thierry connaît le mot, on peut le dire. c'est vraiment un centre d'exception. 133 caps avec l'Irlande, 186 matchs avec son équipe du Leinster. Enfin, c'est quelque chose de complètement dingo. C'était déjà une légende un peu lorsqu'il était en université. C'était déjà un attaquant absolument hors du commun. Et il a eu et une longévité et un leadership au sein de l'équipe de cette équipe irlandaise qui en font évidemment un joueur assez inégalable et inégalé. Moi, j'ai été chercher un petit peu plus loin un joueur que j'aimais beaucoup dans les années 90, qui est aussi deux fois champion du monde, qui est australien, qui s'appelait Tim Horan. Et ce gars-là, qu'on n'a pas forcément beaucoup connu en France, je crois qu'il a quand même joué en Angleterre à la toute fin de sa carrière. Mais c'était un joueur, un blondinet assez costaud qui rentrait ses courses et qui avait cette première trajectoire de centre tranchant qu'on a commencé à voir dans les années 90, alors qu'avant c'était plus des joueurs qui étaient passeurs de ballon, qui prenaient des intervalles plutôt assieds-toi et donne, comme on disait. Lui, c'était pas ça, c'était je rentre dans le machin. Et il a quand même une très belle longévité avec deux titres mondiaux à la sortie, 91-99, ce qui est quand même pas mal. Voilà, donc Tim Horan, moi, je le préfère à Sonny Bill Williams, dont j'apprécie beaucoup les qualités de joueur, mais contrairement à toi, je n'aime pas beaucoup le personnage. Je trouve qu'il est un peu controversé, justement, je trouve qu'il en fait un peu trop avec tout ça. Je trouve qu'il mélange un peu les genres, c'est pas ce que je préfère chez lui, mais c'est un joueur extraordinaire.
Un petit mot sur Brian O'Driscoll, parce que je n'avais pas compris son nom au début. Je pense que c'était Brian Audrey Skull, et Skull, c'est la crâne. Et en fait, j'ai trouvé ça super sympa d'avoir un nom un peu féminin, Audrey, et après Skull, crâne derrière, je trouvais ça excellent. Mais finalement, c'est pas ça. Moi, je vais dire quand même, je voulais représenter aussi des petits pays, des îles. Donc, je suis allé chercher à Samoa Brian Lima, qui s'appelait le chiropractor, le chiropracteur quand même.
Ouais, super joueur.
Donc, Hall of Fame International Rugby, plus de 60 caps, 5 coupes de monde. En fait, va regarder sur YouTube un truc, il fait super peur. Il plaque tellement fort qu'il s'assomme lui-même, en fait.
Bah, c'est ça. Non, mais c'est le trois quarts centre deuxième ligne à la sud-africaine. C'est-à-dire que c'est un mec qui fait échapper les mecs d'en face, Brian Lima, c'est ça. Mais effectivement, c'est longévité de folie. Les mecs, les Iliens, comme ça, on voit bien la suprématie physique qu'ils ont de toute façon sur les autres. Et lui, c'est un tronc d'arbre, quoi, le mec. Donc, effectivement, quand en plus, t'as la chance de pas te blesser et que t'es un mec qui a l'air d'être un bon camarade et que tu deviens un joueur emblématique, voilà, tu traverses les décennies tranquille, 5 Coupes du Monde. Allez, hop.
Allez, si on passait à des wings, donc ils ont moins de viande sur les os, mais quand même ils sont assez rapides, les ailiers.
Oui, alors pour les ailiers, pour moi c'est un poste assez étrange où en hiver tu attends que tes mains gèlent avant de récupérer un ballon et d'éventuellement mettre un essai. Mais il y a un joueur qui pour moi ressort, on en a déjà parlé dans ce podcast avec toi, TK. Pour moi c'est Shane Williams, qui évidemment... qui a marqué le rugby international, qu'on aime bien son parcours, du mec à qui on destinait tout sauf du rugby et qui non seulement a insisté pour être dedans, mais en plus a eu une carrière formidable. C'était vraiment... C'est un peu péjoratif de le dire comme ça, mais que quand il y avait souvent le terme de lutin qui venait quand on parlait de lui, mais je pense que c'était pas une façon de se moquer de sa taille, mais plus une façon de s'extasier devant ses rebonds et sa façon d'être partout à la fois, quoi. Donc c'était ça pour mon premier ailier. Après, en deuxième, je mettrais Ben Spies, néo-zélandais. Belle carrière qui a fini à Pau, que j'ai beaucoup aimé voir jouer aussi, et qui on parle souvent des papas dans le pack de potes, on parle des papas, et souvent quand on parle des papas, c'est les peu de fois où on parle des deuxièmes lignes, mais souvent c'est papas, ces fameux anciens, un peu ces darons du rugby, c'est des mecs qu'on retrouve à l'avant. Et Ben Spies, c'est un peu une exception à la règle, c'est que sur sa fin de carrière, c'était vraiment un daron sur le terrain, c'était vraiment un mec qui guidait, mais à l'aile. Et donc voilà pour mes deux ailiers.
Je suis tellement contente, Charlie, parce que tu en as oublié. Alors, je ne sais pas si c'est oublié comme si c'était grave, mais parce que chacun a son avis. Mais je suis quand même étonnée que tu n'aies pas cité le plus avant des ailiers, c'est-à-dire John Elomou, qui est quand même le mec qui, par sa densité physique, je pense, aurait pu faire un bon deuxième ou troisième ligne. Mais...
Il l'a été, hein, il a joué devant toute sa jeunesse. Hein.
C'est vrai. Ah ben, je ne savais pas, vas-tu. Mais non, voilà, moi je le cite évidemment dans mon 15 international de rêve. C'est marrant, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas un joueur qui a eu une longévité incroyable parce qu'il a eu beaucoup de soucis de santé. Mais voilà, je le cite parce que c'est un joueur qui a été la première star mondiale du rugby, un petit peu décrié aussi parce qu'il avait pas forcément un joueur très complet, mais voilà, il avait quand même une domination face à ses adversaires qui étaient assez foudroyantes, et je pense que c'est l'ailier qui a le plus qui était sur un contre 1 ou un contre 3, un contre 4 même, a réussi à s'en sortir. Donc voilà, je le cite pour ça, et je trouve qu'il était quand même très très talentueux, et c'est un bijou assez brut.
Effectivement, John Elomou, il y a un avant et un après John Elomou, pour l'objet rugby au niveau mondial, quoi. C'est-à-dire que c'est, même si tu connaissais rien au rugby, ça a tourné en boucle, la demi-finale de 95 contre les Anglais, où il marche sur Roy Underwood deux fois de suite avant d'aller marquer, où il le fait voler comme un fétu de paille, alors que le mec était quand même pas précisément une ablette. C'est un joueur qui ensuite a incarné complètement et la culture maori dans le sport, et les All Blacks, et la maladie à la fin de sa vie, et les valeurs du rugby au travers des reportages qu'il y a eu sur ce mec, sur ce qu'il était, c'est-à-dire un mec qui est venu des bas quartiers d'Auckland, qui aurait pu mal tourner, qui finalement est sauvé par le rugby et devient une légende mondiale, en étant en plus avec un parcours assez improbable, avec un gabarit qui n'avait rien à faire à l'aile, et à finir star mondiale à l'aile. Donc c'est des histoires qu'on aime, c'est un personnage de film. Voilà, moi je l'avais croisé une fois à Paris lorsqu'il était venu, je crois qu'il jouait plus déjà à l'époque, mais il était venu parrainer le rugby sevens à Charletti. Je l'avais croisé, bon, j'avais serré la pince, j'ai même pas osé quoi dire. Enfin, j'étais très heureux de le voir de près parce que c'est un monument. Et puis Shane Williams, j'adore aussi, vous avez tout dit, c'était vraiment le feu follet, c'est l'anti John Elomou, quoi, c'est le contraire.
C'est ça, ouais, complètement.
Tu peux pas,
ouais,
faire plus opposé, mais une équipe, ouais, avec ces deux-là, c'est juste fabuleux. Comme vous l'avez déjà dit, on pourrait rajouter un joueur qui jouait 15 aussi, mais un Anglais qui s'appelait Jason Robinson, qui avait vraiment des jambes de feu. Voilà. Et rien que pour ça, franchement, les jambes de Jason Robinson, sa capacité à remonter les ballons, à dépasser, à déposer les gens sur les courses, ça fait tout simplement rêver également.
Donc je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même ajouter Brian Habana à la liste, parce que quand même c'est du vitesse pure. Et moi je vais juste, comme j'habite à Colombes, j'étais fan de Racing, tu vois, d'avoir Cyrilli Bobo avec la ballon dans une seule main, il prend la balle, tu dis, oh, qu'est-ce qui va se passer, et tous les joueurs fidjiens qui sont autour, mais ils sont juste magnifiques à voir. C'est vraiment
tellement magique, ce mec, mais on dirait une panthère, c'est-à-dire que c'est vraiment, moi je l'ai vu de près aussi, j'étais dans les tribunes au Racing quand il jouait là, c'est un gars, on a l'impression que ses deux jambes sont pas attachées au même corps, tellement il a une espèce d'amplitude, une foulée d'une amplitude, et surtout une santé, mais il avait toujours les jambes de 20 ans, il en avait 38, c'était invraisemblable de voir ce mec jouer. Donc je suis complètement d'accord avec toi, Thierry, c'est un magicien. Bon, numéro 15, les gars.
Des arrières.
Tu veux que j'enchaîne? Écoute, moi ça va être super simple. Donc si on parle du 15, moi évidemment je vais parler de El Majo, Juan Martin Hernandez, un type argentin qui a joué longtemps pour Paris, mais d'abord en rose pour Paris Stade Français, qui est parti faire un petit tour du côté de Toulon à la fin, qui a joué aussi pour le Racing, une carrière super riche. Il nous a fait beaucoup de mal en 2007. Il nous a, en tant que Parisien, il a amené deux titres aussi de champion de France. Un joueur très complet, un joueur super beau à voir. J'ai eu beaucoup de peine pour lui. Je ne sais plus quelle année c'était, mais je me souviens avoir été dans le stade à ce moment-là, quand il s'est pris un toulagi dans la gueule. Et que, un joueur aussi qui a subi beaucoup de blessures et qui ont un peu entrecoupé sa carrière. Mais Hernandez, très très bon joueur. Ce serait le 15 que je, que je mettrai en ouvreur de mon équipe.
Effectivement, alors moi, j'aurais pas placé El Mago, comme on l'appelle, en 15, parce que pour moi, il a plus joué à 10, à l'ouverture et au centre. Pour moi, tu l'as cité tout à l'heure, Théo, c'est Jason Robinson, qui, voilà, tu l'as dit, par sa capacité à remonter des ballons, défier notre meilleur arrière. C'est un joueur qui, vraiment, j'aurais bien aimé le voir, en fait, jouer contre un Serge Blanco, qui avait un peu le même profil, entre guillemets, même si Blanco était plus costaud. Mais voilà, Jason Robinson, moi, m'a beaucoup marqué, encore une fois, à cette époque où je découvrais le magnifique jeu du rugby, une vitesse des jambes de feu follet, voilà.
Ouais, c'est vrai que, moi, j'en ai parlé à l'aile, parce que je voulais pas le mettre en 15, parce que je vais jouer un petit peu avec la règle. Moi, j'ai cherché un joueur vénézuélien et c'est Serge Blanco. Voilà. Je veux pas qu'on mette quelqu'un d'autre que Serge Blanco numéro 15. Voilà. C'est tout. C'est comme ça.
Il m'a tué.
Non, s'il fallait pas mettre, s'il fallait pas mettre Serge Blanco.
C'était dur, hein. Honnêtement, c'était dur.
Ouais. C'est très dur. J'aurais bien été chercher un joueur sud-africain que j'aimais beaucoup voir jouer aussi, qui s'appelait Percy Montgomery. Et son vrai prénom aussi, c'était Percival. Rien que pour ça, je dirais que, franchement, il y a quelque chose. Ouais, il méritait. Non, 102 sélections, quasiment 900 points d'équipe nationale. Non, franchement, superbe joueur en numéro 15. Mais le Vénézuélien, pour moi, tient la corde.
Si tu l'as bien dit la dernière épisode, c'est si je dis arrière, tu dis Serge Blanco et c'est fini.
C'est ça.
Allez les gars, j'ai un petit quelque chose pour vous. Donc j'ai pu faire un entretien avec quelqu'un, peut-être vous allez reconnaître sa voix. Et j'ai posé la question, qui pour lui était les joueurs internationaux les plus marquants? Et voilà sa réponse.
Il y en a plein. C'est vrai que je dis souvent que... En tant que troisième ligne, on va faire face à deux choses. La vitesse et la puissance. Donc, j'ai eu quelques blessures au visage qui m'ont rappelé que, ben voilà, il y avait des gens plus puissants que moi. Et donc, il fallait que je fasse attention. Et donc, en cela, des joueurs comme Tana Umaga ou Jonah Lomu, quand on les voyait venir contre nous, ben, il fallait se préparer psychologiquement, physiquement et mentalement, différemment d'un joueur comme Jason Robinson ou Johnny Wilkinson. Donc oui, Jonah Lomu, mon épaule se rappelle encore. Et aujourd'hui, je dis souvent que Johnny, j'ai permis de gagner la Coupe du Monde et lui m'a permis d'être le meilleur plaqueur au monde.
Attends, tu veux dire que tu as eu Serge Benson et que la seule question qui t'est venue à l'esprit, c'est celle-là? Bon, j'espère que tu as quand même un petit peu plus développé, quand même, avec un monstre du rugby français.
Oui, bien sûr. Donc, revenez la semaine prochaine pour notre interview en entier avec Serge Benson. C'était vraiment un super moment de le rencontrer et poser beaucoup d'autres questions.
Tout cela n'était qu'un teasing, TK.
On s'améliore. Bon, je pense que c'est un bon moyen de finir sur cet épisode. Je me suis bien régalé. J'espère que nos chers écouteurs et auditeurs, tous les deux, ils sont bien régalés aussi. Allez, les gars, merci beaucoup.
Oui, c'était top de vous retrouver aujourd'hui. Et à tous nos auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les petites notifications quand vous avez un nouvel épisode qui est prêt à écouter. Ça vous occupera pendant ces dernières semaines de confinement.
Oui, et puis surtout, faut pas rater le prochain. Hein. Vous avez écouté celui-là, vous êtes méritant, mais là, la prochaine fois, c'est le caviar qui arrive, puisque vous allez avoir l'interview de Serge Benson en exclusivité mondiale par Thierry Kaufmann TK. Et franchement, c'est du lourd, ça va être magnifique.
Mais c'est clair, et ça fait un petit moment qu'on parle de ce jeune inconnu qui s'appelle Serge Benson. J'ai vraiment hâte de le découvrir la semaine prochaine. Je pense que ça va être quelque chose. Chers les copains, ça m'a fait plaisir de vous avoir, de vous entendre encore et de parler rugby avec vous dans cette période de disette.
Allez les gars, merci, ciao.
Ciao, salut.
Allez, salut à tous, bye.